d'emploi. Mode d'emploi.
François Hollande, quel président comptez-vous être ?
Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et, en définitive, responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Moi, président de la République, je ferai un acte de décentralisation parce que je pense que les collectivités locales ont besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles compétences, de nouvelles libertés. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On a évoqué celui de l'énergie, et il est légitime qu'il puisse y avoir sur ces questions-là de grands débats citoyens. Moi, président de la République, j'introduirai la représentation proportionnelle pour les élections législatives, pour les élections, non pas celles de 2012, mais celles de 2017, parce que je pense qu'il est bon que l'ensemble des sensibilités politiques soient représentées. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République, puisque les conditions sont exceptionnelles. Le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde, sur la planète. Il y a l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là. Mais il doit aussi être proche du peuple, être capable de le comprendre.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris-Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, les miennes étaient sous la pluie. Aujourd'hui, nous reprenons cette émission avec Ludo et Christophe. Bonjour à vous deux.
Bonsoir.
Voilà, donc nous parlerons dans cette émission, comme d'habitude, du chômage, de l'emploi, du travail, etc. Du gouvernement Valls 2, bien sûr, parce qu'il y a une petite orientation qui s'est faite depuis quelques mois, qui est un peu, on va dire, ultra-libérale, ou plutôt social-libérale, on ne sait pas encore très bien le terme. Et pour ça, j'ai un invité surprise, et je vous en dirai plus sur l'invité surprise par la suite. Donc, on en parle maintenant, puisqu'apparemment, il n'y a pas la musique, mais ça ne fait rien. Voilà, c'est pas grave. Monsieur Jean-Édouard Philippot, d'ailleurs, je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans une émission de gauche, on va dire, de la vraie gauche. Vous êtes donc...
La vraie, c'est la vôtre.
Oui, oui.
Paul Jamien.
Ah oui, voilà. Donc, vous êtes un collaborateur d'un élu de province PS, hein, voilà.
Tout à fait.
On dit de vous que vous êtes un
briseur de tabous.
Un briseur de tabous et un socialiste moderne.
Moderne, disons que beaucoup de mes camarades, enfin, parmi ceux qui osent enfin briser les tabous, et mettre certains débats sur la table se qualifient comme ça. Donc c'est pas que je veuille vous qualifier, vous, qui vous qualifiez de l'autre gauche ou je sais pas, d'archaïque, mais enfin je me qualifie de quelqu'un de mon temps qui analyse la situation telle qu'elle est. Et avec les possibilités qu'on a pour parce que là on est dans une émission qui s'adresse aux chômeurs, donc moi mon but chaque jour j'agis, je réfléchis pour proposer des réformes à mes camarades qui puissent permettre de créer de l'emploi.
Et l'époque ne serait pas réactionnaire.
Il paraît. Alors justement, en parlant de réformes, quelles sont ces réformes que vous aimeriez mettre en place dans les prochains mois, prochaines années?
Donc là, je dois avouer que j'ai l'introduction du nouveau gouvernement en Valls, la D2, moi, personnellement, me donne beaucoup d'espoir. J'ai l'impression qu'enfin, certains débats tabous vont pouvoir enfin se tenir dans ce pays et qu'on va pouvoir réformer, donc, parce que c'est qu'en réformant qu'on pourra faire bouger les choses pour créer des emplois.
Mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes le seul? Je veux dire, tous les médias dénoncent une dérive sociale libérale.
Mais les médias, vous savez bien que les médias, c'est je veux dire, on est dans un pays libre, donc les médias ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais dans l'ensemble, les médias ont tendance à être assez marqués par les idéologies du XXe siècle. Enfin, parlons, soyons francs, quoi.
C'est-à-dire
les idéologies marxisantes, keynésiennes, enfin des idéologies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un processus de mondialisation libérale, on est dans des économies ouvertes. Et à l'époque où ont été élaborées ces théories, c'était pas tout à fait le cas. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter, quoi. Il faut franchement prendre en compte la situation. Et si on veut que nos entreprises puissent exporter, puissent vendre leurs produits, ben il faut qu'elles puissent les produire à des coûts qui soient, excusez-moi, j'ai utilisé un gros mot pour cette radio, mais compétitifs, quoi.
Est-ce que vous pensez qu'il faut s'aligner sur les salaires des travailleurs chinois?
Alors, quand on parle de comparaison de salaire, ça dépend aussi pour quel type de produit on parle. En France, on a un problème de coût du travail. Bon, maintenant, c'est quasiment admis par tout le monde, sauf peut-être ici. On a un énorme problème de coût du travail, mais essentiellement pas pour tous les emplois. Si vous voulez, si vous êtes par exemple ingénieur chez Airbus, la compétitivité même de l'entreprise permet de correctement rémunérer les actionnaires sans nuire à la valeur ajoutée générée par la vente des avions.
Airbus a été délocalisé aux États-Unis à cause du Francfort.
Du franc fort, on est plus à l'époque du franc. Disons que là vous êtes en train de mélanger les sujets. Là. On parlait du problème salarial, maintenant vous parlez de problème monétaire en fait.
Non, mais enfin je dis seulement que Airbus a été délocalisé, c'est tout.
Non, Airbus implante des usines et c'est très bien. Il faut s'en féliciter proche de ses clients.
Monsieur Philippot, excusez-moi, mais restons un petit peu sur les thématiques de vos constructions intellectuelles, on va dire. Par exemple, sur le coût du travail, vous parliez du coût du travail. Quel serait par rapport au niveau salarial ou même au niveau du temps de travail? Pour vous, ce serait quoi à peu près? C'est quoi? Plutôt 32 heures? Plutôt 40 heures? Plutôt...
Si vous voulez, tout dépend.
Compétitif au niveau entreprise.
C'est-à-dire qu'il faut donner la liberté. Il faut donner, franchement, faut lever tous ces archaïsmes qui font la société française aujourd'hui. Moi, s'il y a une entreprise qui veut payer 4000 euros par mois à ses salariés pour faire 20 heures, mais moi, je lui donne la liberté de le faire. Mais par contre, si les autres entreprises veulent faire travailler un salaire qui soit compétitif par rapport à nos voisins espagnols, par exemple, 800, 700 euros par mois. Mais si elle a besoin, pour être compétitive, de faire travailler ses salariés 48 ou 49 heures par semaine, il faut lui donner cette possibilité. Sinon, elle va mourir. Elle va pas tenir le choc, vous comprenez? Enfin, c'est peut-être choquant, mais moi, je suis comme Monsieur Macron. Moi, je pense qu'il faut être des fois pragmatique. C'est bien beau de donner des droits, là, des 35 heures, etc. Mais si, le but, c'est que, moi, je suis comme Monsieur Hollande. Mon but, c'est de donner du travail aux gens.
Mais enfin, c'est quand même très étrange.
Pour changer leur vie, quoi.
C'est très étrange de parler de l'Espagne, par exemple, où, à ma connaissance, la baisse du coût, enfin, des salaires en Espagne, n'a pas provoqué de croissance. Je crois même que le chômage s'est envolé, malgré la baisse du coût.
Mais l'Espagne s'est engagée assez récemment dans des réformes qu'on qualifie aujourd'hui de structurelles.
De structurelles, oui.
Voilà. Donc, il faut.
Ça lui manquait auparavant.
Il faut laisser le temps à ce pays de récolter les fruits de ces réformes courageuses qui ont été menées, d'ailleurs, à la fois par la gauche, par M. Zapatero, comme par son successeur.
Voilà. Alors justement, à propos des délocalisations, parce qu'on a vu que M. Hollande, ainsi que les différents ministres qui ont gouverné autour de M. Hollande sur le problème de l'emploi et du travail, moment donné, quand même, aux entreprises, on a vu même M. Valls dire qu'il aimait les entreprises. Nous, on aime les chômeurs, mais bon, chacun ses amours. Il a donné de l'argent aux entreprises, mais apparemment...
Vous n'aimez pas les entreprises?
Si, j'aime les entreprises. Quand elles fonctionnent.
Quand elles donnent du travail.
Quand elles donnent du travail, oui. Mais par exemple, par rapport aux délocalisations, justement, quel est votre avis là-dessus, sur les délocalisations?
Alors, là, on en revient, donc, effectivement, comme le disait votre collègue, il y a des fois, avec certains pays, il peut y avoir des problèmes monétaires. Si, par exemple, on prend le cas du dollar, effectivement, l'euro par rapport au dollar, il y a peut-être un niveau de parité qui n'est pas optimal. Mais dans la zone euro, déjà, au sein même de l'Union européenne, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à un grand nombre de nos voisins, à la fois en termes de coût du travail, je pense à nos amis espagnols qui par exemple au niveau agricole, prenons cet exemple, arrivent à être exportateurs. La France est très performante au niveau de l'export.
C'est un des premiers pays.
La France est exportateur, mais plus sur certains types de produits, plus en dehors de l'Union européenne. Par exemple, si on prend les fruits et légumes, qui sont livrés à la vraie concurrence, c'est-à-dire qui sont hors PAC, parce que les maraîchers ne bénéficient pas de ces subventions qui faussent tout. Si on prend le cas des fruits et légumes, là, c'est le coût du travail, quoi, qui fait que les Espagnols arrivent à exporter, alors que nos producteurs chez nous sont en train, malheureusement pour certains, de mettre la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contraints de payer des charges monstrueuses pour des salaires, pour des travailleurs non qualifiés. Parce qu'en fait, le problème du coût du travail, il est là. C'est que les gens qui sont, les Français qui sont pas très qualifiés, on peut plus les payer au SMIC aujourd'hui. Ça va plus être possible. Il va falloir, changer tout ça. Va falloir, imaginer, une évolution soit du niveau du SMIC, soit les prestations sociales qui vont avec, soit le temps de travail hebdomadaire on pourra plus rester. C'est plus possible maintenant aujourd'hui, en 2014. De payer un travailleur non qualifié 1000 euros par mois pour 35 heures. C'est du rêve. Ça peut plus marcher, ça. Ça fonctionne encore un peu, mais ça va s'écrouler. Vous voyez bien que la situation est dramatique. Il faut réagir.
Alors, moi, j'ai quand même deux objections. C'est des questions en forme de questions. J'ai des questions, mais deux, quand même. Je veux dire, je m'imagine, en fait, le SMICard à qui on va baisser le salaire et on se demande ce qu'il va consommer. Si on généralise cette idée, c'est-à-dire où et comment il va consommer, et donc par retour de bâton, on peut peut-être estimer que ça risque un petit peu de gripper la machine en quelque sorte. Et puis la deuxième, c'est tout de même, j'entends monsieur qui parle énormément de compétitivité, de concurrence, notamment entre pays européens, mais enfin. La concurrence, on sait bien que ça tire tout le monde vers le bas et que c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Depuis 20 ans, les salaires baissent. Effectivement, la demande est à tonnes. Et effectivement, ça détruit des emplois partout en Europe. Une politique coopérative entre pays européens serait peut-être bienvenue. Ce serait peut-être le moment d'augmenter au niveau européen tous les salaires.
Vous partez d'un... Votre raisonnement part d'une bonne intention, mais il est faux. En fait, vous parlez de concurrence qui traîne tout vers le bas. Parce qu'effectivement, comme je vous disais, sur les produits non qualifiés, on peut plus, c'est plus possible. De continuer à payer des gens 35 heures, 1000 euros par mois, c'est beaucoup trop élevé et pas assez de temps de travail.
Là, il suffit de mettre un barème un peu plus haut pour tout le monde. Au niveau de la sphère européenne, on pourrait parfaitement imaginer payer un peu plus le producteur espagnol,
Nous vivons dans une économie ouverte. À supposer que les Européens se mettent d'accord pour faire... Le genre de politique utopique que vous proposez, n'oubliez pas qu'il y a aussi les Africains, les Asiatiques, les Chinois qui travaillent beaucoup pour des salaires qui sont plus modestes, plus raisonnables.
Alors, si vous baissez, admettons que votre raisonnement tienne la route, j'en doute un peu, mais bon, admettons que ça tienne la route, ça veut dire que tout ce qui touche le pouvoir d'achat de ces gens non qualifiés qui toucheraient éventuellement moins de 1000 euros par mois pour 35 heures... Comment ça se passerait? Parce que les loyers restent chers sur Paris, et même sur la région parisienne et sur la province.
Sur la France.
Sur la France entière. Les produits de première nécessité restent assez chers aussi, mine de rien. Faut savoir. Donc, on baisse tout. Alors, on baisse tous les coûts. Comment ça se passe au niveau financier, tout ça?
Il va falloir aussi que certains prix dans la société française baissent, effectivement. Mais on peut pas raisonner quand on monte. Moi, je suis créateur d'entreprise, par exemple. Je peux pas raisonner. Est-ce que mes salariés vont pouvoir se payer un loyer? Moi, je raisonne. Est-ce que je vais pouvoir vendre mes produits? Vous voyez, on vit pas sur. Moi, je vis dans la planète.
Donc, il faut un marché de commande. Il faut des gens qui puissent acheter.
Mais les consommateurs aujourd'hui, Ludovic, sont partout dans la planète. Ils peuvent être à New York, mais à Londres.
Je suis désolé d'avoir vous rappelé que le taux d'ouverture de l'Union européenne est de 15%, ce qui n'est pas énorme, et que, par exemple, la moitié des exportations allemandes se font en Europe. Et donc, quand on parle de marché ouvert à l'Union européenne, on a un marché qui est parfaitement capable d'être harmonisé par le haut et de se suffire à lui-même. C'est le propre de la croissance, une croissance auto-entretenue. Ce serait possible, par exemple, de limiter des choses qui viennent de l'extérieur et de s'entendre entre Européens.
Alors moi, par rapport à ce que vous dites, j'ai trois objections. La première, c'est que vous dites sur la question de salaire. Donc moi, ce que je comprends pas, donc les entreprises sont à tonnes. Or, j'ai lu récemment les bénéfices, résultats nets des entreprises du CAC 40. C'est plus de 160 milliards d'euros de bénéfices. Donc comme quoi, on arrive à générer de la richesse dans ce pays. Oui. Ça, c'est déjà une première objection.
Heureusement, et c'est un mieux.
C'est une première objection.
Et à qui va-t-elle?
Elle va aux gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire à la rente. Déjà d'une part.
Donc, vous appelez ça la rente, il y a aussi ces rentiers, il y a ce qu'on appelle des créateurs d'entreprises.
Oui, mais il y a
des gens courageux qui osent investir de l'argent encore dans ce pays.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est une rente qui est considérable, puisqu'il n'y a aucun mécanisme de régulation du domaine de la rente en France et au niveau des marchés internationaux et de la finance. Ça veut dire quoi? Près de 12 points du produit intérieur brut va dans le domaine de la rente. Ça, c'est déjà une première objection. La deuxième objection, je vais vous rappeler les fondamentaux du fordisme, à savoir que moi, monsieur Ford, producteur de voitures, je vais donner des salaires à mes ouvriers suffisamment corrects parce qu'ils vont pouvoir acheter mes voitures et donc je vais pouvoir vendre des produits. C'est une équation de base du capitalisme.
Oui, mais on était au début du capitalisme.
Et la troisième objection, c'est que je vous rappelle que derrière ces idées de libre-échange, effectivement, la notion de valeur ajoutée par rapport à des produits spécifiques existe, notamment pour la France, sur certains marchés spécifiques comme le luxe, entre autres, le domaine du vêtement, des choses comme ça. Mais par contre, il était évident que des mécanismes de protection sont nécessaires. Parce que derrière, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quel modèle social on veut. Alors effectivement, si vous voulez vous aligner avec la Chine, vous donnez un bol de riz pour tous les Français. Mais je ne pense pas qu'en termes de sociabilité, de stabilité et de paix sociale, ça va véritablement marcher.
Moi, je trouve qu'il y a une paix sociale relativement...
Monsieur Philippot, excusez-moi, on va peut-être écouter une petite chanson avant pour reprendre.
C'est ainsi, il n'y a pas trop de manifs, vous êtes d'accord avec moi.
Oui, c'est vrai.
On est en paix sociale.
Et le Front National.
On écoute une petite chanson, ensuite on reprend la parole.
Au tour maintenant du chef du Parti libéral du Québec, Monsieur Jean Charest.
Merci, mon pitre. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. Excusez-la. Je préfère Burger King. Moi, j'aime tout le fast-food. De toute façon, je trouve ça moins compliqué, ça coûte moins.
Excellente chanson. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi.
Et c'était,
je ne sais pas, qui chante ça. En tout cas, ça a l'air d'être des Québécois, certainement, parce qu'ils ont un petit accent. C'est génial, absolument.
Libérez-nous des libéraux.
Libérez-nous des libéraux. Ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, Monsieur Philippot, peut-être, mais...
Moi, si vous restez démocratique, moi, ça va.
D'accord.
Mais si vous perdez les élections, faut savoir l'admettre.
Très bien. Alors, je rappelle quand même que vous êtes avec...
Ça, c'est une bonne réponse.
Vous êtes donc dans cette émission avec Gilles, moi-même, Ludo, Christophe en tant qu'animateur.
C'est comme avec les femmes. Quand on n'arrive pas à en séduire une, il faut savoir...
Enfin plusieurs.
Il faut savoir battre en retraite.
J'ai des questions à mon interlocuteur.
Peut-être qu'il va peut-être répondre d'abord à Christophe sur les questions qu'il avait posées avant la chanson.
Mais moi, après, ce sera sur un plan politique. Parce
d'accord,
que là on était sur l'économie, mais après, quand même.
On va essayer de vous écorcher un petit peu, Monsieur Philippot, si ça vous dérange pas. Hein, parce que nous sommes là pour ça.
Mais vous voyez, moi, j'adore le débat.
Oui.
J'adore toutes ces questions que je trouve en fait marrantes, en fait, parce que je les trouve amusantes. Peut-être. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Je trouve que vous êtes. C'est ce qui vous rend sympathique, d'ailleurs. Faut être honnête.
Vous trouvez que c'est amusant que 140 milliards d'euros n'arrivent pas dans les poches des salariés?
Alors, moi, comme je vous disais en début d'émission, moi, je ne suis pas là pour dire c'est amusant, c'est pas amusant. Moi, je suis là pour regarder la réalité. telle qu'elle fonctionne.
Ah ben, moi je l'avoue.
Alors, vous parliez de milliards d'euros, etc. Effectivement, et heureusement, il y a des gens qui prennent des risques en France aujourd'hui, qui pourraient aller monter des entreprises en Asie, dans des zones où ils génèrent peut-être même plus de valeur ajoutée.
Mais ça, c'est juste à prouver que l'argent de la rente est réellement réinvesti.
Non, j'ai pas dit qu'il était tout investi. Voilà. Heureusement que les gens en profitent aussi de l'argent qu'ils gagnent. C'est libre à eux.
Je crois même, monsieur, que certains économistes disent que finalement aujourd'hui les bourses ne servent plus à financer l'économie. C'est un des grands ratages de votre système. C'est-à-dire que à force effectivement de permettre à n'importe qui de spéculer sur la dette de l'État, sur des trucs spéculatifs, l'argent finalement il est plus rentable en fait de spéculer en bourse plutôt que d'aller investir dans son entreprise. On est passé d'un capitalisme productif à un capitalisme financier. Et ça, il y a peu de libéraux qui l'admettent, cette incapacité à faire un retour en fait sur le capital.
Il est vrai que le tournant libéral de Monsieur Valls, quand même, c'est assez impressionnant tout ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez le remarquer vous-même.
Vous parlez de capitalisme financier et effectivement, on appelle le monde de l'argent la finance. Effectivement, comme si la finance était un gros mot. Hein, entre nous, c'est pas un gros mot, la finance.
Si elle sert à quelque chose, comme je viens de vous le dire, elle sert à quelque chose.
Fait tourner le monde, la finance. Sans finance, il y aurait plus d'économie. Donc ça, il faut pas le perdre de vue.
Vous ne pensez pas que manger un financier, c'est bon pour la planète?
Mais après,
manger plusieurs encore, 5 par jour, comme les fruits et légumes.
Mais regardez, Mao a essayé, regardez un peu le drame que ça a été.
Mais monsieur, vous avez dit tout à l'heure, oui, les politiques keynésiennes, c'est du passé. Nous, on vous demande qu'à vous croire. Mais je crois me souvenir qu'il y a exactement un peu plus d'un demi-siècle, lors de la dernière grand éclatement de la bulle spéculative aux États-Unis, donc c'était en 1929, a suivi une 10 années de crise.
De récession, absolue.
De récession, telle qu'on est en train de les vivre aujourd'hui, d'une certaine façon. Mmh. Et ma foi, la réponse à l'époque de M. Roosevelt a été tout simplement de réguler la finance. On l'a oublié, ça. Hein. Et de mettre en place un ordre keynésien. Et la régulation de la finance, ça signifiait une taxation à 80% de l'impôt, de la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que, passé à une certaine tranche, on confisquait carrément 80% des revenus. Et c'était l'argument des keynésiens, c'est que ça obligeait les chefs d'entreprise à réinvestir leurs revenus. Et donc, effectivement, le capitalisme américain a pas mal tourné, entre autres, c'est pas seulement lié à ça, mais a bien tourné dans les années
d'après-guerre. Il a aussi beaucoup tourné sur l'économie de guerre à l'époque. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, l'économie n'était pas aussi ouverte qu'aujourd'hui. Il y avait des droits de douane, du protectionnisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Les hommes peuvent bouger, les capitaux peuvent bouger. Donc, il faut partir de ce constat-là. Nous vivons dans un monde ouvert. Donc, ces solutions qui ont pu être, dans certaines conditions, peut-être une solution à un instant T, ne peuvent plus être efficaces aujourd'hui.
Monsieur, dans les yeux, pouvez-vous nous dire que la concurrence est toujours libre et non faussée? Par exemple, la concurrence
malheureusement,
entre les
Chinois. Vous avez raison de mettre le doigt sur un sujet. Effectivement, elle est malheureusement trop souvent faussée. Prenez l'exemple des services publics, la SNCF.
Elle a été ouverte à la concurrence.
Oui, mais pas suffisamment. Il y a quand même encore le gouvernement socialiste.
Mais vous ne répondez pas à la question. La concurrence est-elle libre donc, vous faites entre pays, par exemple, entre travailleurs américains et travailleurs chinois, par exemple.
Je suis collaborateur. Moi, je suis un producteur d'idées. Comme je vous disais, un briseur de tabous, mais je ne...
Vous n'êtes pas un SCOPS, actuellement.
Je suis militant socialiste, oui. D'accord. Mais je veux dire, je n'ai pas eu la chance, l'honneur d'être appelé au gouvernement. Voilà.
D'accord. Alors justement, j'ai une question quand même beaucoup plus terre à terre. Monsieur Hollande a fait des promesses de campagne. Il voulait manger les financiers, etc. Il avait quand même un certain nombre de promesses importantes.
Les gens ont voté pour lui.
Qui donnait un petit peu à son idéologie une marque de fabrique plus à gauche que ce qu'avait fait Sarkozy 5 ans plus tôt, les 5 dernières années. Et là, on se retrouve avec un deuxième gouvernement Valls, c'est-à-dire celui qui était dans les primaires en minorité, qui était le plus libéral des 5 personnes qui étaient présentées à ce moment-là. Et là, on a donc un changement de cap, mais hallucinant. C'est-à-dire que là, on est effectivement dans ce que vous appelez, vous, ce qu'on appelle l'économie libérale ou toutes sortes de choses, les sociaux-libéraux, etc. Et ça vous gêne pas, ça? Vous trouvez que l'austérité, le taper sur les chômeurs...
Puis politiquement, est-ce que vous trouvez ça honnête d'être dans une élection où on fait
quelque
chose à gauche
on est en sérieux budgétaire.
Est-ce que vous ça... et en récession d'ailleurs aussi. Et
on n'a pas encore baissé de 20% le salaire des fonctionnaires comme on l'a fait dans d'autres pays européens. Et le gouvernement n'a pas encore osé.
Ça a d'ailleurs énormément porté ses fruits, notamment en Espagne et en Grèce, bien entendu.
Mais
on en reviendra, mais vous n'avez pas
répondu à la question.
Est-ce que vous estimez que aujourd'hui dans un pays, il est sain de faire une campagne donc démocratique sur un programme et une fois qu'on est élu, de faire fi des électeurs et de renier une à une toutes ses promesses, et puis de nommer effectivement un collaborateur qui est en l'occurrence le plus à droite, de se couper de sa base, y compris au Parti Socialiste, c'est historique d'avoir quand même une centaine de députés socialistes qui affichent carrément leur opposition au gouvernement. Du temps de Mitterrand, on n'aurait jamais vu ça.
Et de nommer Monsieur Macron, qui est quand même qui est un pourfendeur de tout ce qui pourrait être socialiste aujourd'hui.
Parce que faire des études brillantes maintenant en France, c'est mal vu.
D'ailleurs, juste à propos de ça,
vous avez fait HEC, peut-être que
vous avez fait quoi comme
étude?
Vous avez fait quoi comme étude justement, vous-même, Monsieur Philippot?
Moi, j'ai fait Sciences Po Paris.
Est-ce que vous trouvez pas d'ailleurs, pour rebondir sur votre question, d'avoir toujours une même élite qui a la même homogénéité, le même... Par exemple, effectivement, ils ont la plus grande école de commerce HEC fournit actuellement une grande partie des cadres dirigeants, y compris en ayant fait l'ENA.
Fabrique des robots,
Prenez
le cas de ceux qui ont été entre guillemets formatés dans les écoles marxistes de la CGT, c'est pareil. Moi, j'appelle ça des robots.
La CGT n'est jamais au gouvernement.
CGT est au gouvernement.
Elle n'a pas d'école de formation.
Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a tout un tas de gens formatés en France. Il me citait le cas des gens qui ont fait HEC, mais autant être formaté par le haut que par le bas. Si je puis me permettre.
Parce que la formation des syndicalistes de la CGT ou même d'autres organismes sud ou autres, c'est du formatage. Vous pensez que les gens n'ont pas leur liberté de se penser.
Et sachant que...
Donc vous êtes en train de nous dire indirectement que les écoles qui préparent un élitisme, en fait, prônent une idéologie commune, à savoir le libéralisme. C'est ça que vous êtes en train de nous dire comme raisonnement.
On va pas rentrer
dans un conflit.
Oui, je sens qu'il y a de la frustration de ne pas avoir fait les études. Je préfère passer à un autre sujet parce que là,
Et HEC alors? Vous répondez.
HEC
est une école mondialement reconnue pour la qualité de ses enseignants.
Moi, je tiens à vous dire, j'ai pas fait Sciences Po Paris, j'ai fait le collège Quesvox. Plus sérieux que. Alors justement. Justement, la position libérale de vous-même, vous avez certainement une position liée.
Je suis social-libéral.
Social-libéral,
je ne suis pas uniquement libéral.
D'accord. Par rapport au chômage, c'est une émission sur le chômage. J'aimerais quand même vous entendre un petit peu sur ce que vous pensez.
Oui, social, parce qu'on n'a pas encore parlé de social.
Exactement. Que pensez-vous de ce qui a été dit par un certain ministre, je ne dirai pas son nom, sur le fait que les chômeurs sont des fraudeurs?
Alors, la fraude, l'assistanat. C'est vrai que c'est un débat très difficile à voir quand on est de gauche. Puisque moi je brise les tabous, donc je le dis, il y a beaucoup dans ces populations-là, on va dire, des gens qui bénéficient ce qu'on appelle les allocations sociales, tout ça, si on était plus franc, c'est quand même dans ces populations-là qu'il y a ce qu'on appelle les assistés, faut être honnête.
Une définition de l'assisté.
Oui, mais je vais vous en donner une. Parmi cette population-là, qui est aidé, mais qui finit par devenir assisté, ce sont des gens qui votent en général à gauche. Donc c'est pour ça que c'est dur de leur tenir un langage de vérité aujourd'hui. Et si vous voulez, quelqu'un qui perçoit... Il y a même des chômeurs qui gagnent plus de 500 euros d'allocation, je crois, même 1000. Oh,
500 euros d'allocation
par mois, quoi.
Donc, ils survivent.
En ne faisant rien, bien sûr.
En ne faisant rien. Ils répondent à 3 mails par mois, ils ont leurs 1000 euros, vous voyez. Et donc, ils vont... Comment voulez-vous les motiver pour aller chercher efficacement un travail? Bon, effectivement, aussi, il y a un problème aussi, faut avouer, d'accompagnement à Pôle emploi. Il faudrait qu'ils soient plus encadrés, plus motivés. Voilà.
D'accord. Mais écoutez, ça ne dérange pas, Christophe, on va arrêter là la conversation. Monsieur Philippot, dont vous êtes toujours collaborateur d'un élu de province, collaborateur en PS,
Oui, un président de conseil général.
Voilà, donc président de conseil général, vous êtes considéré comme un socialiste moderne. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie pour cette liberté de parole que vous m'avez donnée.
Merci beaucoup à vous.
Et j'espère, parce que vous, je vous aurais peut-être pas convaincu, mais j'espère, moi, ce qui compte plus, c'est les auditeurs.
On est assez formaté aussi, en fait, dans l'histoire.
Voilà. Moi, ce qui compte, c'est les auditeurs. Parce que les auditeurs, c'est les électeurs.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Une petite chanson. Voilà.
communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence par la Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, mission des chômeurs et précaires. Bien sûr, c'est toujours, je suis toujours avec Christophe, Ludo, c'est Gilles au micro. Merci, bien sûr, à Claude à la technique. Et je tenais à vous dire quand même, pour cette émission de rentrée, on voulait faire un petit gag, cette première demi-heure. En fait, Jean-Edouard Philippot n'est pas du tout Jean-Edouard Philippot, c'est donc Fabien.
Voilà, je m'appelle Fabien. En fait, je ne milite pas au PS. J'ai essayé d'imiter certains membres du PS qui sont pas le reflet, je pense, de tous les socialistes.
Mais t'as été
socialistes.
Un peu dur avec eux quand même. Hein, parce
j'étais
que,
dur avec eux, mais la période a été propice à quelques pics. En tout cas, au gouvernement, je pense qu'il y a des gens qui sont pas loin du discours que je tenais. Et ça, c'est dramatique pour ce qui se passe en ce moment. Voilà.
T'as fait l'avocat du diable.
J'ai fait un peu l'avocat du diable. On s'est un peu amusé. Mais là, c'est la situation, effectivement, n'est pas rose, si je puis me permettre l'expression.
Mais franchement, là où t'as été le meilleur, c'est quand même le couplet sur les assistés. Là, ça nous a coupé le sifflet.
J'ai mis un peu jaune.
Mais d'ailleurs, l'assistana. Et quelque chose qu'il faut foncièrement découpler, on en parlait juste avant l'émission, des mécanismes de solidarité. Ça n'a rien à voir. L'assistanat, c'est par exemple dans les pays libéraux comme les États-Unis ou l'Angleterre, c'est une grande multitude de fondations qui font des soupes populaires, des machins. Ça, c'est de l'assistanat. On n'aide pas les gens comme ça. On les aide juste à manger, à pas mourir. Mais on les aide pas à s'en sortir. Alors que la solidarité, les mécanismes de solidarité, comme par exemple la sécurité sociale, la retraite, la formation, l'assurance chômage, ça, c'est les mécanismes de solidarité qui permettent aux gens qui rencontrent des accidents de parcours de s'en sortir et d'aller de l'avant de manière positive. C'est une grosse différence, je pense, entre un fonctionnement purement capitalisto-libéral et un fonctionnement un peu comme on le connaissait jusqu'à aujourd'hui, même si c'est en grande partie attaqué, où il y avait au centre du système, il y avait quand même la sécurité sociale avec des mécanismes de solidarité qui, faut reconnaître, étaient quand même jusqu'à présent exceptionnel.
On comprend bien la nuance.
En tout cas, non, je voulais quand même rassurer les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, parce que bon, on sait où ils se situent, hein, politiquement parlant, enfin plus ou moins en tout cas. Et donc effectivement, la première demi-heure aura pu faire bondir un certain nombre de personnes, et nous-mêmes d'ailleurs avons bondi dans ce local. Ceci dit, voilà, t'es un de nos camarades, et évidemment, tu défends et les chômeurs, etc., etc. Donc, merci en tout cas d'avoir joué ce jeu, Fabien.
Merci beaucoup.
Et puis, c'était assez rigolo finalement. On va peut-être repasser sur des choses un peu plus sérieuses, mais de rien. Quoi, c'était très sérieux.
Mais la période est tellement triste que parfois, il vaut mieux en rire un peu, quoi.
C'est vrai. Alors Ludo, justement, monsieur Rems Amène, oui. Donc le ministre qui s'occupe des chômeurs, plus ou moins. Enfin,
on va rebondir sur,
oui,
sur la situation.
Il a dit qu'il fallait plus contrôler les chômeurs. Alors, qu'en est-il exactement? Question mal posée. Alors,
question,
peut-être que je peux la reposer trop.
Non, mais alors après le couplet, effectivement, sur l'assistanat, bon, c'est vrai qu'on pourrait discuter, parce que finalement, aujourd'hui, enfin, donner, je sais pas, pour le RMI, je sais pas combien il se monte pour une personne seule, mais enfin, on n'est pas loin de l'assistanat, c'est-à-dire d'empêcher la personne de mourir, c'est tout.
Autour de 600, pas, je crois, non
quelque chose comme ça.
Plutôt 500, je crois.
Alors, actuellement, le RSA, mais il va être augmenté d'à peu près 7 à 8% et de 439 €
pour une personne seule.
Pour une personne seule, hors APL. Et donc, avec l'APL maximum, on peut toucher 700 € sur Paris, ce qui est largement en dessous du seuil de pauvreté.
Bien sûr.
Oui, donc voilà. Donc en fait, bon, ben effectivement, je veux dire, je rappelle quand même qu'en termes de pouvoir d'achat, par rapport à la création du RMI, donc les RSA ont perdu énormément d'argent, ce qui fait que il était peut-être possible de se loger quand le RSA a été créé avec un, par contre, quand le RMI a été créé avec un RMI. Aujourd'hui, c'est carrément la croix et la bannière. Et donc, on est quand même dans un bon. Alors là, je parle effectivement des RMI, je parle pas, mais on parle des assistés. Alors, il faut quand même rappeler que le chômage n'a pas cessé d'augmenter depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à se souvenir. Donc les chiffres du mois d'août, hein, pour vous donner une idée, c'est quand même, on a passé largement la barre des 3 millions, puisqu'on est à 3 millions 400 000.
Donc on a passé la barre des 10%. Alors.
Exactement. D'accord. Et on est, pour vous dire, hein, c'est-à-dire que 400 000, donc ça a augmenté, on a encore eu une augmentation à peu près de 100 000 personnes entre juin et juillet. C'est pour vous dire, excusez-moi, c'est les chiffres de juillet sortis au mois d'août, avec un mois de retard. Toutes catégories confondues, on est à plus de 5 millions de chômeurs. Voilà, et c'est les chiffres de Pôle emploi. Donc ça donne une idée du contexte dans lequel M. Rebsamen se permet des propos dont on peut être que halluciné, tout simplement parce que effectivement ça nous rappelle un peu ceux de monsieur Laurent Wauquiez par exemple. Voilà, la proximité avec la droite en période de crise où il n'y a évidemment pas d'emploi, et ça fait un homme politique qui devant l'opinion n'a rien trouvé de mieux que d'opposer des catégories entre elles, d'opposer les actifs aux inactifs. Et de semer un peu une espèce de haine, de jalousie vis-à-vis du soi-disant assisté, le pauvre assisté, hein, n'est-ce pas, qui gagne vraiment trop d'argent. C'est indigne d'un ministre de gauche.
C'est juste pour apporter une précision à ce que tu disais, la barre des 5 millions a été franchie en métropole. Avec
oui,
les DOM-TOM, je crois qu'on a franchi la barre des 6 millions, sachant en plus qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne sont pas inscrites. Prenons les jeunes qui sortent immédiatement. Ça, c'est les chômeurs comptabilisés.
Alors,
les sans-emploi réels, malheureusement, il y en a peut-être un ou deux.
Alors,
ou
le
plus.
Problème, c'est que dans ces histoires de chiffres, on finit par s'y perdre, parce que normalement, l'enquête de l'INSEE est censée déterminer les gens qui ne sont pas inscrits, sauf qu'ils ont les critères sont devenus tellement restrictifs qu'aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE sont en dessous chiffre de Pôle emploi, sachant qu'ils comprennent à peu près, effectivement, plus de 10% de non-inscrits. Donc il y a effectivement un léger problème, mais effectivement, globalement, on sait tous que si toutes catégories confondues, y compris le temps partiel, on atteint des records historiques dans ce pays. Donc pour le contrôle effectif, alors je ne sais pas ce qu'en pose Christophe, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait des années que les conseillers sont complètement débordés, qu'on leur attribue à des portefeuilles de demandeurs d'emploi qui sont bien trop importantes. Et donc, semble-t-il, il y a une expérience pilote hein, dans trois régions qui fait que, semble-t-il, la logique qui voudrait être suivie, c'est finalement de cibler les certains demandeurs d'emploi. Alors, sur quels critères? Donc, est-ce que c'est ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi? Un travailleur social vous dira que, a priori, il y a peu de chances que les gens qui sont réellement éloignés de l'emploi en retrouvent un. Est-ce que c'est des catégories qui auraient, entre guillemets, les diplômes nécessaires pour trouver du travail, mais qu'on veut absolument forcer à trouver un travail un peu moins qualifié? D'abord, quel est le critère du chômeur, entre guillemets, fainéant, hein?
Alors, par rapport à ça, il faut savoir que, mais là, je m'enfonçais une porte ouverte, que les différents intervenants et travailleurs sociaux sont tout d'abord dans une situation d'injonction paradoxale, parce que Madame Lagarde, il y a quelques années, déclarait que le portefeuille d'un conseiller emploi lambda, c'était 60 dossiers, c'est largement plus de 150.
Ah, largement plus, il y a même des... des conseillers, 300, c'est 300. Voilà, 300.
Alors déjà, parce que la précarité a explosé. Deuxièmement, il faut savoir également que cette notion de précarité, elle est globalement intégrée par rapport aux différents types de demandeurs. C'est-à-dire que même des jeunes diplômés qui savent qu'ils ne vont pas trouver un poste de cadre moyen ou de technicien supérieur vont se retrancher sur des postes nécessitant de moins de qualifications pour pouvoir manger. Donc ça nivelle cette absence d'offres d'emploi conséquente, nivelle par le bas et de fait écarte toute une partie de la population qui est peu ou moyennement qualifiée. Ouais. Donc de plus, il y a des barrières types. Premièrement, il y a la barrière de l'âge. Hein. Les seniors sont les plus de 45 ans sont les premières victimes de cette logique sélective. Il y a la notion de santé aussi. Il y a outre la barrière du diplôme, il y a aussi le coût, parce que par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait été, par exemple, un chef d'entreprise, et puis ensuite vous avez été cadre de bon niveau du fait de vos indemnités chômage, au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir reprendre un travail payé au SMIC, quoi. C'est pas possible, parce que vous dévalorisez votre parcours professionnel. Donc il y a déjà cette notion là. Et puis, le problème de fond, c'est que il n'y a pas de demande. Et bien, il y a certains secteurs qui sont atones régulièrement, quoi. On sait très bien. C'est-à-dire que on n'a pas, en France, on a un immense problème par rapport aux pays anglo-saxons. C'est pour ça que le modèle libéral paraît mieux marcher, entre guillemets, dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'en France, quand on est diplômé ingénieur, je sais pas, en agroalimentaire, par exemple, on peut travailler que dans ce secteur et ce domaine-là. Même si on a fait une école d'ingénieur et qu'on a des capacités intellectuelles de raisonnement près dans d'autres domaines. Et ça, c'est une des barrières typiques françaises.
C'est qu'on n'aime pas la surqualification, en fait.
Non, c'est pas une question de surqualification. C'est que on est, c'est comme les corps d'État et le corps public. On ne peut être bon que dans un seul domaine et on peut pas faire d'autres choses. Alors, c'est complètement contradictoire. Hein. C'est une contradiction complète avec la notion de libéralisme dans le sens je vends mes compétences au plus offrant et je me donne la liberté de choisir mon métier, sachant qu'on a ce carcan-là de tel diplôme égale tel type de métier et rien d'autre. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà rencontré dans les dossiers que je suis des gens qui étaient hautement qualifiés, qui disent, mais attendez, mais moi, faire du babysitting à 50 ans, étant donné que j'ai besoin de bouffer, je suis prêt à le faire. Et ben non. Ben non, t'as 50 ans, tu vas pas t'occuper de gamins.
En fait, tu veux dire par là que la rigidité, la soi-disant rigidité du marché du travail, en fait, elle est du côté des employeurs. C'est-à-dire qu'ils refusent d'embaucher des gens qui, résolument, n'ont pas le profil. Donc, effectivement,
ah oui,
par
oui,
exemple,
mais c'est une réalité, il y a un supérieur
qui veut faire du babysitting.
Je me pose en faux par rapport à ce que tu viens de dire. Tu peux avoir 50 ans et t'occuper de gamins.
Mais on est bien d'accord.
Regarde les nounous, elles ont deux fois 50 ans.
Mais on est bien d'accord.
Faut-il qu'il y ait la possibilité que l'employeur reste.
Mais il y a les carcans. C'est-à-dire qu'en France, il y a une réalité, c'est la prédominance du diplôme.
Très juste. Alors moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le contrôle de. Tu
voulais faire. Oui, c'était juste par rapport à ces histoires de chômeurs, enfin fainéants ou pas. Dans l'actualité, ils en ont reparlé d'ailleurs. Oui. Il y a aussi un paramètre qu'il faut voir, c'est le taux de vacance d'emploi.
Oui.
C'est-à-dire, parce qu'on dit, absolument. Ah, il y a du travail, mais c'est les gens qui veulent pas travailler. Enfin, ça, c'est une idée reçue. Or, le taux de vacance d'emploi, c'est-à-dire d'emploi non pourvu en France, c'est l'un des plus faibles de l'Union européenne.
Oui, c'est ça.
Oui, et en plus, alors, quand on parle de taux de vacance, l'expression est vraiment bien choisie. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une rotation sur les emplois, une importante rotation. Et donc, effectivement, on en a beaucoup parlé à cette émission, mais il y a des boulots pénibles et pas très bien rémunérés où le taux de vacance est très, très important. Donc, par exemple, la restauration, le bâtiment. Et c'est pas le fait des 10 chômeurs qui prennent ce job, c'est vraiment le fait en l'occurrence des conditions de travail qui sont très dégradées, puisque quand il y a un taux de vacances, ça veut dire qu'on peut pas l'assumer. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on parle des emplois vacants, c'est qu'on se fie souvent au nombre d'offres non pourvues. Mais en réalité, le nombre d'offres non pourvues à la NPE n'est pas un chiffre bien exact, puisqu'il arrive très souvent que certains employeurs n'avertissent tout simplement pas la NPE que leur offre a été pourvue depuis belle lurette et du coup le taux est quand même très approximatif en tout cas quand il vient de la NPE. Mais,
alors juste
il y a aussi les problèmes de mobilité parce que s'il y a une offre à temps partiel en Corse pour deux mois, on peut comprendre que un chômeur lillois sera pas trop en capacité d'y aller.
C'est clair.
Alors, le trajet lui coûtera plus cher que.
J'aimerais qu'on revienne quand même sur le contrôle des chemins parce que j'ai lu un truc il y a pas longtemps, c'est aujourd'hui, hein, un document de Pôle emploi qui dit qu'effectivement depuis un an, ils ont mis en place dans 4 régions, Poitou-Charentes, Basse-Normandie, PACA et Franche-Comté, des équipes de conseillers spécialement dédiées à la poursuite, à la chasse, à la fraude. Donc voilà où passe notre argent, hein, des impôts, hein. Donc en fait, on paye des flics pour aller chercher les fraudeurs, alors qu'on pourrait payer les gens de Pôle Emploi pour justement chercher du travail aux chômeurs, plutôt. Hein.
Donc, non mais alors, ce qui surtout se demande, c'est quand même le critère de choix, parce que moi aussi j'ai lu l'article. Le critère, il est pas. Non, mais le critère, on ne sait pas.
Non, c'est pas.
Voilà, et donc c'est quand même très arbitraire.
Et puis la fraude, c'est quoi? C'est 0,6%, mais peut-être même pas.
Alors justement, la fraude, c'est 1% de fraude hein, sur la totalité et sachant qu'en fait, évidemment, la fraude aux ACEDIC représente 0,8% des fraudes. La fraude à Pôle Emploi, représente 0,8% des fraudes en France. C'est vous dire, et c'est évidemment loin derrière la fraude, par exemple, à l'impôt sur le revenu, la fraude à la TVA, et à la fois en montant et en nombre de personnes
et qui sont concernées.
La fraude fiscale, la fraude au code de la route, etc.
Non, mais bien sûr, mais là, bon, on parle de fraude sur des montants financiers, on va dire.
À l'URSSAF aussi, oui.
Mais à l'URSSAF aussi, voilà. Et sachant que, évidemment, oui. si ça intéresse le montant de la fraude fiscale, c'est 3,66 milliards de fraude fiscale à mettre en rapport avec les 32 millions en 2011 de fraude aux ACEDIC, ce qui représente pas beaucoup en fait, parce que le budget des ACEDIC est très 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 important, donc ça représente même pas 2% des montants, quoi.
Il faut rappeler quand même que le secrétariat d'État au commerce extérieur n'a pas déclaré ses impôts depuis 3 ans. Donc ça, c'est juste
et il est viré.
Et il est viré. Voilà. Donc c'était juste une petite blague en passant.
Il y a aussi un paramètre que les médias, tout ça, ne rappellent peu fréquemment. C'est que le nombre de chômeurs indemnisés et le pourcentage est en baisse. Donc il y a aussi beaucoup de chômeurs qui ne touchent rien.
Il est à moins d'un sur deux. Hein,
ouais, c'est ça, moins d'un sur deux. Il est à 50%.
Il est à 50%. Il s'approche plus des 40% si on enlève l'allocation de fin de parcours, hein, l'ASS.
Voilà. Oui, d'accord.
Oui, mais ça, c'est pour ceux qui ont pu bénéficier à un moment donné d'ACEDIC.
Et tout à fait, oui, exactement.
Mais ceux qui rentrent sur le marché de l'emploi vers 23 ans, en sortant ou 22, ils ont droit à ni RSA, ni rien, en fait.
Absolument. Donc,
Alors, j'aurais quand même voulu juste... c'est bientôt fini, donc j'aurais juste voulu dire quelque chose sur ces conseillers qui suivent ces choses, qui vont à la chasse aux fraudeurs. Donc, ils ont des conseils à donner aux chômeurs pour qu'ils puissent justement bien faire les choses, bien dire qu'ils sont en train de rechercher de l'emploi... Donc, comme en général, les chômeurs sont des imbéciles, donc il faut bien leur expliquer à plusieurs reprises. Donc, il faut qu'ils fassent des recherches d'emploi, il faut qu'ils montrent qu'ils font des recherches d'emploi à Pôle emploi. Et donc, les conseils sont les suivants. Donc, c'est très marrant parce qu'en fait, il faut déjà avoir un ordinateur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde d'avoir un ordinateur, parce qu'un ordinateur, ça coûte assez cher. Et avoir Internet aussi, hein, parce que pour pouvoir effectivement créer son espace personnel Pôle emploi, hein, il faut l'Internet. L'Internet, ça a un certain coût. Et donc, une fois qu'on a Internet, on fait son espace emploi pour répondre aux annonces par Internet. Donc, il conseille dans ce document de faire ce genre de choses pour prouver que les chômeurs recherchent un emploi. Donc, il faut mettre, en fait, pour chaque chômeur qui cherche du travail, il faut qu'ils achètent tous un ordinateur. Donc, messieurs qui nous écoutez ou mesdames qui nous écoutez, achetez un ordinateur, achetez Internet. Mais si vous touchez que 600 euros par mois, hein, vous n'avez pas le droit de manger, vous avez le droit d'acheter l'ordinateur et l'Internet. Et ensuite, vous faites votre espace personnel pour montrer au Pôle emploi que vous recherchez du travail. Allez, il y a une promotion avec la rentrée des classes. Merci Claude. Ceci dit, en passant, quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on n'est pas sûr de ne pas être radié. Parce que si ces conseillers spécialisés police déterminent que c'est des fausses recherches d'emploi, ils peuvent radier les chômeurs pendant 15 jours, voire plus. S'ils le décident. Donc, ils sont en fait maîtres de la situation. Nous, on n'a rien le droit de dire. On n'a pas de recours. Voilà. Donc, ça, c'est quand même assez angoissant.
Moi, je trouve ça aussi, angoissant, oui, mais je trouve ça infantilisant. Parce qu'on demande aux gens, allez, montre-moi que tu as fait envoyer 3 CV et 3 lettres. Je trouve ça, c'est un rapport, comment dire, entre le conseiller, enfin, entre Pôle emploi, les conseillers et les demandeurs d'emploi qui a un peu un rapport de maître à élève, enfin c'est un peu, je trouve ça un peu.
Non, et puis ça serait dans un contexte terrible, de plein emploi, ça pourrait se comprendre, mais dans un contexte où les gens qui ont travaillé, enfin se retrouvent à la porte, vont avoir des indemnités qui durent pas éternellement. Moi je demande qu'on me présente des gens qui ne foutent rien, enfin je veux dire qui ont travaillé, qui sont au chômage et qui ils cherchent pas. Enfin on a l'impression que c'est une logique qui est purement comptable. D'une certaine façon, hein, c'est-à-dire essayer d'exclure un maximum de gens du système. C'est vraiment ça que ça fait, quoi.
Il y a aussi des gens qui, passaient un certain temps au chômage, finissent par se décourager, à chercher moins activement, mais ça se comprend aussi. C'est humain.
Par les temps qui courent, oui.
Je tiens quand même à rappeler que ACE, Agence en compte au chômage, dont c'est l'émission d'ACE ici, hein, donc je rappelle quand même, disait une certaine période.
Ça n'était pas entendu au début.
Disait une certaine période de son histoire, elle le dit toujours aujourd'hui. C'est par exemple, par avoir un toit, c'est un droit. Voilà, à la retraite, c'est un dû à la limite, puisqu'on a déjà travaillé. Donc on reprend ce qu'on a versé, en fait, puisque c'est entre le brut et le net, et faire chercher etc. Mais c'est pareil pour le chômage. Quelqu'un qui a travaillé, il y a 6,8% de son net, entre le brut et le net, qui vont au chômage. Et les patrons donnent aussi une certaine somme au chômage pour qu'ils puissent bénéficier justement de cet argent quand il n'a plus de travail. Donc c'est en fait, c'est pareil.
C'est le système de solidarité.
C'est un argent qui nous revient de droit, à la limite. Donc, contrôler les chômeurs pour leur demander de travailler sinon on leur coupe leurs droits, c'est inadmissible parce que cet argent, c'est du vol. C'est l'argent qui nous... Voilà. Une fois qu'on ne touche plus l'argent, là, effectivement, ils ont le droit de surveiller parce que à ce moment-là, on a... Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tu veux dire qu'en fait, c'est une assurance. Tu rappelles que une assurance, c'est comme si on a eu un accident, on a le droit à une indemnité.
Tout à fait.
Qui n'est pas éternelle.
Qui n'est pas éternelle,
absolument. Qui est en voie de réduction perpétuelle.
Non, ça met un petit peu en colère, c'est pour ça que j'ai du mal à le dire, mais c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment que les gens se mettent ça dans la tête, c'est que cet argent, c'est pas de la solidarité, etc. C'est pas de l'argent qu'on nous donne à fond perdu, quoi. Alors, c'est de l'argent que nous on a versé pour justement l'avoir à nouveau quand on n'a plus, quand on a plus de travail.
On parlait du système libéral hein, tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler, parce que là il y a un document qui est sorti sur le chômage de longue durée dans l'OCDE, donc qui a augmenté dans tous les pays de l'OCDE, hein, le chômage de longue durée, mais qu'aux États-Unis c'est historique, c'est malgré une mini reprise, eh bien on n'a jamais autant de gens, alors que c'est un des systèmes d'indemnisation qui est les plus durs au monde, hein, le système, enfin dans les pays de l'OCDE en tout cas, le système d'indemnisation des chômeurs, on n'a jamais eu autant de gens qui ne travaillaient pas, c'est-à-dire le taux d'activité des personnes, c'est-à-dire y compris des gens qui ne voulaient rien
activité
en termes de,
tu veux dire,
le taux d'activité, c'est les gens qui sont au travail en quelque sorte, mais c'est pas le taux de chômage, parce que le taux de chômage ça comprend les gens qui sont vraiment en recherche d'emploi. Et bien là, à un moment donné, alors que ces gens-là ne disposent plus d'allocation chômage en quelque sorte, eh bien il y a jamais autant de gens qui ne travaillaient pas parce que effectivement ils fuyaient des emplois très peu qualifiés, notamment les emplois de service, parce qu'aux États-Unis bon on peut faire un peu ce qu'on veut quand même avec le salaire des personnes, et effectivement là on a un problème de population active de gens qui au vu des emplois indécents qui sont proposés ne travaillent pas malgré la dureté du système du système libéral. C'est-à-dire que à la limite dans certains cas, et c'est des cas fréquents, travailler revient plus cher que de ne pas travailler. Donc par exemple quand on a un enfant, vous voyez, et donc voilà, donc le système libéral disciplinaire c'est pas d'une grande efficacité.
Très bien. Merci messieurs d'avoir fait cette émission avec moi. Cette émission se termine malheureusement. Je tiens à dire aux auditeurs et auditrices qui peuvent rester sur l'antenne, parce que après la fin de cette émission, on reprendra certainement la parole, puisque en fait, il n'y a pas d'émission qui nous suit. Hein. L'émission qui devait prendre notre place n'est pas là. Donc, on va rester peut-être 10 minutes en plus. On va voir si on le fait. Mais en tout cas, cette émission termine pour la rediffusion aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite une bonne soirée. J'embrasse les filles et une poignée de mots aux garçons. Au revoir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Tu peux embrasser les garçons.